Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Écho à contre-courant où nous allons parler d'un phénomène qui refait surface dans l'actualité économique qui est celui de l'inflation, sous un angle un peu particulier qui est celui de la mesure statistique de l'inflation et de la construction de cette mesure statistique de l'inflation. Alors nous allons en parler avec Florence Janicatrice. Bonjour. Bonjour, vous êtes professeure d'économie à l'Université de Lille et vous avez publié aux éditions La Découverte dans la collection Repères ce livre « L'indice des prix à la consommation » qui vient d'être republié en anglais dans une version enrichie. Et donc, nous allons avec vous parler effectivement de cette construction statistique de l'indice des prix à la consommation, qui est le fruit, hein, c'est votre thèse principale, d'une construction sociale. Et je voudrais, pour commencer, vous faire réagir à une citation d'un autre économiste, André Orléans, que vous citez au début de votre ouvrage, et qui dit « Les statistiques macroéconomiques sont le résultat d'un intense travail social ». Alors comment vous comprenez précisément cette citation ?
Alors je suis pas certaine qu'il évoque la question des indices macroéconomiques comme résultat d'un intense travail social, mais ce qu'il dit, c'est que les conventions sont le résultat d'un intense travail social. Or, tous les indicateurs, qu'ils soient macroéconomiques, microéconomiques ou statistiques, sont toujours le fruit de conventions. Et ce qui est très intéressant dans l'idée que les indices sont des conventions, c'est que, au fond, l'histoire montre qu'on aurait pu les calculer autrement. On aurait pu faire d'autres choix. Mmh. On aurait pu, et donc ça redonne une sorte de marge de manœuvre aux acteurs. C'est la raison pour laquelle je considère qu'on peut en faire une économie politique. Ça redonne de la marge d'action pour éventuellement penser les choses autrement. Fruit d'un intense travail social, quand même, je vais reprendre ce bout de phrase que je trouve absolument lumineux parce que, effectivement, derrière la statistique, il y a à la fois une grosse organisation, en l'occurrence l'INSEE depuis 1946. Il y a des luttes internes, souvent extrêmement feutrées, des luttes avec d'autres acteurs. Et pour le coup, sur la question de l'inflation, peut-être plus que sur d'autres agrégats ou peut-être des acteurs intermédiaires pressentent moins les enjeux, en particulier en termes de redistribution, j'imagine qu'on va en parler. Là, les impacts sont très élevés. Donc, vous avez des tas de catégories d'acteurs, notamment les syndicats de salariés, qui sont intervenus dans le débat sur comment faut-il mesurer l'inflation. Est-ce que l'inflation est bien mesurée par ce proxy, cette approximation qu'est l'indice des prix à la consommation, etc., etc. Donc, au total, oui, c'est une convention. Et comme c'est une convention, c'est le fruit d'un intense travail social, fruit de lutte, de rapports sociaux et qui sont sans doute c'est pas une mauvaise chose, mais sont souvent des conventions et des luttes qui sont feutrées, pas très externalisées. On évoque souvent l'idée que les indicateurs ce sont des boîtes noires. Et pourquoi on dit que ce sont des boîtes noires? Parce que précisément on ne les ouvre pas toujours, hein, on n'ouvre pas un petit peu cette machine interne. Et c'est pas plus mal aussi qu'on ne le fasse pas en permanence, parce que nous avons besoin, et c'est toujours cette ligne de taille que moi j'essaye de suivre aussi en tant que chercheur et en tant qu'usagère du chiffre, c'est-à-dire que nous avons besoin de ces indicateurs comme coordinateurs de l'action collective. Mmh. On a besoin d'un repère collectivement admis. La question, c'est de savoir pourquoi, de temps à autre, il n'est plus collectivement admis, pour savoir comment négocier une augmentation de salaire, quelle est la croissance économique et est-ce qu'il faut qu'elle progresse ou faut-il s'inquiéter de son atonité, etc., etc. Vous voyez, ces tas de choses, ce sont des boîtes noires, mais ces boîtes noires, de temps à autre, elles peuvent être ouvertes et quand elles sont ouvertes, souvent, elles donnent lieu à des controverses.
Et donc, c'est cette ligne de crête, voilà, finalement, entre ce besoin statistique et puis cette idée que la statistique n'est pas quelque chose de naturel, mais bien une construction sociale, une construction humaine.
Absolument. Je dis souvent à mes étudiants qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme le font un certain nombre de confrères, pas nécessairement en économie, mais dans d'autres sciences sociales, qui consistent à dire, puisque de toute façon, les chiffres sont toujours un peu fragiles, ou en tout cas le fruit de lutte, peut-être qu'on devrait faire sans chiffres. Moi, j'ai le sentiment, mais c'est peut-être un tropisme d'économiste, que les chiffres sont absolument essentiels, parce que on ne peut avoir qu'une perception très individuelle de ce qui arrive en matière d'inflation. Chacun peut avoir son idée personnelle de la manière par laquelle les prix évoluent autour de lui. Chacun peut avoir une estimation personnelle de la pauvreté telle qu'il l'observe, telle qu'il la constate dans son environnement, mais il n'y a finalement que ces grands agrégats qui nous permettent d'avoir un point de vue désindividualisé et donc plus collégial sur le monde tel qu'il va. Pauvreté, croissance, productivité, inflation, pour reprendre des grands agrégats qui représentent aussi le monde d'une certaine manière et l'état du monde.
Alors vous, dans ce livre, vous ouvrez cette boîte noire pour essayer de montrer comment s'est construit cet indice des prix, ce qu'il veut dire aujourd'hui et quel est le fruit de quelle lutte il est le résultat. Alors on va regarder un petit peu ensemble les trois ou quatre éléments clés de cet indice. Le premier, c'est celui de la statistique, c'est ce qui ouvre votre livre. C'est finalement, lorsqu'on décide de calculer un indice moyen des prix représentatifs, on se retrouve avec plusieurs possibilités. Qui va acheter quoi? À quelle fréquence? Comment? Où il va l'acheter? Voilà, toutes ces questions-là, finalement, se posent au premier statisticien qui tente de construire cet indice des prix.
Ce qui est très intéressant, c'est que dans l'histoire des indicateurs macroéconomiques, souvent, c'est au moment de grandes crises qu'on sent le besoin d'avoir une sorte d'indicateur un peu agrégatif qui permet d'avoir un point de vue un peu général sur le monde tel qu'il va, même s'il est un peu performatif aussi.
D'ailleurs, je vous coupe, c'est aussi le cas du PIB. Absolument, qui est le fruit de la crise de 29.
Absolument, c'était ça, c'était le parallèle que je voulais faire. Et d'ailleurs, moi, je suis arrivée sur la question de la mesure de l'inflation par la croissance. Je fais juste cette parenthèse qui est quand même très importante, puisque pour calculer la croissance, on a besoin d'utiliser un déflateur et que, au fond, l'inflation n'est pas totalement le déflateur du PIB, mais quand même représente à peu près 70% de ce déflateur. Donc, quand on regarde les conventions qu'il y a autour de l'inflation, forcément, elles se répercutent un peu en creux sur la mesure de la croissance économique. Mais pour revenir à votre question, donc, les grandes questions qui se posaient au début du XXe siècle, c'était quand même des que les historiens de l'économie ont bien montré, notamment Béatrice Touchelet, c'est l'idée qu'il y avait un problème d'accès à l'alimentation, qu'il y avait ce sentiment diffus d'une crise alimentaire ou d'une crise d'accès à la vie chère. Enfin voilà, la vie était chère et que cette vie chère, on n'arrivait pas bien à le documenter. Et donc a été construit au départ un indice assez pragmatique, qui était un indice qu'on appelle un indice des 13 biens. On y mettait quelques produits alimentaires représentatifs de la consommation, plutôt d'un ménage ouvrier, parce que l'idée, c'était de se concentrer sur les effets de la vie chère sur les populations les plus pauvres, les populations ouvrières de l'époque.
Et d'ailleurs à Paris
pour des raisons pragmatiques plus que scientifiques. Paris parce que l'Institut de la statistique de l'époque était plutôt installé là et que c'était finalement l'échantillon était plus facilement accessible à cet endroit-là. Donc ménage ouvrier, un panier de 13 biens, et puis évidemment, pour chacun des biens, vous voyez comment peut évoluer l'indice individuel du bien, mais si vous voulez en faire un agrégat, il faut bien faire quelque chose autour de cet agrégat. Donc il faut faire une moyenne, en général, c'est un petit peu ce qui vient naturellement à l'idée, et il faut la pondérer par l'évolution de ces biens, et donc en fait, en gros, ce que l'on fait, c'est toute la théorie de l'aspect qui a été retenue, mais qui est aussi une sorte de construction un petit peu pragmatique. On retient l'évolution du prix de chaque bien et puis on le pondère par le coefficient budgétaire, c'est-à-dire le poids que représente chaque bien dans les dépenses. Voilà. Et donc on regarde comment ça évolue dans le temps. Mais comme on cherche à ne mesurer que ce que les statisticiens appellent, ce qui est assez cocasse d'ailleurs, l'évolution des prix purs, c'est-à-dire l'évolution du prix mais débarrassée de toutes les autres variations qui peuvent apparaître autour de cette évolution du prix.
Mais il faut travailler sur la quantité, la qualité notamment.
La quantité notamment, la qualité de ces biens, parce que les biens restent jamais très stables dans le temps. Eh bien, il faut travailler sur une base. Et donc, ce que dit l'indice de l'ASPER, c'est qu'on travaille sur la base de l'année d'observation, la première année d'observation, et puis ensuite, au bout de quelques années, on doit changer la base parce que les consommations des ménages changent et que l'offre aussi des biens et des services qui sont à disposition change dans le temps.
Donc c'est un peu cette course à la vérité ou à la réalité, à essayer de coller le plus possible à une forme de réalité d'une consommation qui elle-même change.
Oui, dans le même temps, au départ, les yeux étaient quand même rivés sur ce que consommait à peu près, enfin en tout cas, ce que pouvait être un panier de biens représentatif de l'ouvrier. Au cours du temps, en particulier dans les années 70, mais surtout au début des années 90, il y a eu quand même une grande bascule où on ne s'est plus du tout centré sur l'ouvrier, mais on s'est centré sur le ménage moyen, avec tout le caractère un peu mythique de ce que peut être un consommateur moyen. Et donc, on a retenu l'ensemble de la consommation. On s'est aussi appuyé sur des enquêtes budget des ménages pour pouvoir avoir une vision plus représentative, disons, de ce que consomme le ménage.
Avec une mise à jour régulière, justement.
Et avec une mise à jour régulière, tous les 5 ans d'abord, et puis ensuite de manière encore plus régulière ou plus fréquente.
Alors, donc, l'indice, il faut le construire, on l'a vu, et tout ça est très contesté, et vous racontez également dans votre livre, hein, comment cet indice, au fil des temps, a été, et notamment jusque dans les années 80-90, le fruit de luttes politiques et syndicales importantes, avec une intervention de l'État dans les années 50-60, notamment auprès des entreprises qui servaient en fait de référence à l'INSEE, où on demandait de pas trop augmenter les prix parce que voilà. Et puis à côté de ça, la CGT qui, une fois que l'État commence à se retirer un peu du jeu, prend le relais et crée lui-même une sorte d'indice concurrent de l'indice de l'INSEE, donc de 1972 à 1998. Aujourd'hui, on se dit cette existence d'un indice concurrent syndical nous paraît un peu incroyable, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir cet indice qu'on ne conteste pas, qui est celui de l'INSEE, qui serait représentatif de l'inflation. Et on se dit c'est intéressant de voir que, en fait, le politique et le syndical a pu essayer de se saisir de ce calcul de l'inflation.
Je pense que l'un des objectifs ou l'une des missions finalement des chercheurs en économie politique, c'est un peu de dénaturaliser, d'ailleurs pas que de l'économie politique, de toutes les sciences sociales un peu critiques, c'est de dénaturaliser ce qui apparaît comme étant quelque chose d'évident pour les individus. Alors les économistes en économie politique le font autour d'un certain nombre de lois hein, qu'ils déconstruisent parce qu'elles sont tellement assénées comme étant naturelles qu'évidemment ils ont raison d'être dans le débat sur ces questions-là. Et moi je prends la question sous l'angle des indicateurs avec lesquels on travaille et je les dénaturalise. Mais pourquoi est-ce que c'est une question extrêmement importante? Pourquoi est-ce qu'il faut être aussi sur ce débat-là? Parce que ces indicateurs ont de multiples usages. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils ont une sensibilité aussi forte, en particulier l'inflation. L'inflation, elle joue comme un élément redistributif extrêmement important. Si vous voulez avoir une augmentation de votre pouvoir d'achat en tant que consommateur ou en tant que ménage ou en tant que citoyen, il faut soit réclamer une augmentation de votre revenu nominal, soit pouvoir négocier à partir du repère qu'est l'inflation. Et si voilà, il y a un vrai effet redistributif autour de la mesure de l'inflation. Si l'inflation était surestimée, les individus peuvent négocier des augmentations de salaire. Enfin, si toutefois il y a un pouvoir de négociation suffisant, mais un peu supérieur à ce qu'ils pourraient prétendre. Si toutefois il y avait un vrai phénomène mesurable, et puis si l'inflation est sous-estimée, eh bien, finalement, ça joue comme une décote sur les négociations salariales, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment un indicateur absolument central dans les effets de redistribution. Et ce que j'ajoute dans mon ouvrage, c'est que c'est aussi un indicateur très important dans les manières qu'on a de se représenter ce que sont les richesses. Parce que, précisément, la question de la qualité, qui est extrêmement importante pour mesurer l'inflation, c'est peut-être un peu technique pour l'évoquer ici, mais c'est un élément central. Et la qualité ne va pas de soi. Personne ne peut énoncer ce qu'est la qualité. Par exemple, vous avez un fameux américain, Boskin, qui disait au milieu des années 90, en gros, que la qualité progressait partout aux États-Unis, y compris en matière de crimes qui se réduisaient et que les questions écologiques étaient quasiment toutes réglées au milieu des années 90. Évidemment, l'histoire lui a donné tort sur à peu près tous les sujets, mais il avait un point de vue extrêmement normatif, sur l'évolution de la qualité, comme Aguillon peut l'avoir aujourd'hui sur la question de l'innovation. Et du coup, ça a des impacts véritablement sur la manière par laquelle l'inflation est mesurée. Mais pour revenir à votre question, donc les luttes étant très importantes en matière de redistribution, inévitablement, gouvernement d'un côté pour ses dépenses publiques et les syndicats de l'autre pour la défense du pouvoir d'achat des salariés, eh bien, sont venus dans le débat très très tôt. Finalement, le gouvernement, dès les années 50, a mené ce qu'on pourrait appeler une véritable politique du chiffre, comme on l'a connu dans les années 2007 avec Sarkozy autour de la mesure du chômage. Politique du chiffre où on dit si on veut maintenir l'inflation, eh bien on va demander aux entreprises qui produisent des biens qui sont dans le panier de mesure de fixer leurs prix, de fixer les prix de telle sorte que ça ne veut pas dire que le phénomène en soi lui n'évolue pas. C'est simplement la mesure qui elle reste contrainte ou maîtrisée par le gouvernement. L'INSEE a été très traumatisé par cette période d'intervention vraiment très très forte de l'État et de gouvernement dans ce panier de l'indice, et elle a été tellement traumatisée qu'elle en a fait du coup une sorte de mesure un peu secrète. Hein. On a un peu du mal à savoir exactement ce qu'il y a dans le panier, comment il est totalement construit. Elle n'est pas très prolixe. L'INSEE n'est pas très prolixe autour de la mesure de l'inflation, et il n'intervient dans le débat qu'en général que quand la controverse est très ouverte. Et précisément au début des années 70, la CGT est intervenue dans le débat en construisant son propre indice. Alors elle l'a fait pour deux raisons. D'abord, elle l'a fait parce qu'elle était très puissante, hein, et qu'elle, donc elle avait les moyens de le faire, parce qu'on peut pas comme ça construire un indice alternatif qui puisse avoir une légitimité en dehors de l'INSEE sans avoir les moyens de le faire. Elle l'a fait aussi pour des raisons de politique économique et d'économie politique. Elle l'a fait parce que une bonne partie des salaires étaient indexés de manière automatique sur l'inflation. Et donc, au fond, quand il y a une indexation automatique des salaires, il y a un glissement d'un débat autour de l'augmentation des salaires sur un glissement autour de la mesure de l'inflation, puisque au-delà de 5% d'augmentation des prix et puis ensuite au-delà de 3% d'augmentation des prix, les salariés pouvaient bénéficier d'augmentations mécaniques, je dis bien mécaniques, de leur salaire. Et donc la CGT devenait mécontente de la manière par laquelle l'inflation était mesurée, considérant que ça devenait un indicateur du patronat, hein, puisque évidemment ça permettait, si toutefois l'indice était sous-estimé, d'éviter des augmentations de salaire trop élevées. Et donc, aidée en cela aussi par une expertise de nombreux salariés de la Confédération qui étaient des fonctionnaires de l'INSEE, finalement elle a proposé son propre indice. Alors, il était de 3 à 4 points plus élevé que l'indice officiel. Et ça permettait, dans les secteurs dans lesquels la CGT était très puissante, notamment la métallurgie, de négocier des augmentations de salaire, non pas à partir du point de repère, de ce repère cognitif collectif qu'était l'inflation officielle, mais de le faire à partir de son propre indice. Donc il y a eu aussi des effets, c'était pas simplement une rhétorique pour être dans le débat public, il y avait vraiment des effets redistributifs de la production de cet indice alternatif. Quelles étaient les grandes différences? Parce que ça permet aussi, quand on regarde les différences, de montrer que les choses peuvent être mesurées autrement, même si moi, en tant que chercheur, je prends pas véritablement parti. Je dis pas l'indice officiel est plus vrai que l'indice de la CGT. Je vois simplement que l'indice officiel, il est plus collectivement partagé que celui de la CGT, qui était aussi contesté par pas mal de groupes de pression. Mais l'indice de la CGT ne souhaitait pas, par exemple, tenir compte de l'effet de la qualité. L'effet de la qualité consiste à dire que s'il y a un prix dont, si un produit voit son prix augmenter, si dans le même temps ce produit a une qualité qui a augmenté, on va considérer que ce n'est pas un effet d'inflation, mais que c'est un effet qualité.
Une partie du prix qui est justifié.
Alors, une partie ou tout. Mmh. Et parfois tout. Hein. Et donc, si vous avez un ordinateur dont le prix progresse de 20%, si vous arrivez en tant que producteur ou en tant que statisticien de l'INSEE à montrer qu'il y a eu dans le même temps 20% d'augmentation de la qualité, eh bien, vous n'enregistrerez pas l'évolution comme une évolution de prix. Évidemment, ça pose des tas de questions, en particulier la question de la qualité est-elle choisie ou est-elle imposée aux consommateurs? C'est une question absolument essentielle. Dans l'imaginaire de la plupart des économistes du courant dominant aujourd'hui, le marché est souverain. Le consommateur est souverain sur le marché et tout ce à quoi il a accès est quelque chose de totalement choisi. Et donc l'effet de qualité contrainte n'est quelque chose qui n'apparaît même pas dans le débat de ce point de vue-là.
Je vous coupe à ce moment-là parce que c'est un dernier élément de la construction de cet indice, hein, c'est l'influence finalement des théories économiques et des débats économiques sur la construction de cet indice. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup quand on vous lit et quand on lit cet article. Et notamment le fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui. Cet indice un peu naturalisé quand même, qui aujourd'hui est présenté comme une référence, s'appuie, comme vous venez de le dire, hein, sur une vision économique particulière qui est celle d'un marché où le consommateur finalement est capable de dicter sa loi.
Oui, alors en fait, ce que je dis, c'est que tous les indicateurs macroéconomiques, toute l'histoire des indicateurs macroéconomiques doit être réenchâssée dans un régime des idées. Et le régime des idées entre 1946, le moment où finalement a été vraiment construit l'indice un peu contemporain, l'indice des prix contemporains, donc une sorte de proxy de la mesure de l'inflation, d'une part, et ce qui se passe aujourd'hui, bah, la transformation à l'intérieur de l'INSEE a été drastique. Il n'y a quasiment plus aucun keynésien à l'intérieur de l'INSEE. Y compris pour construire les comptes nationaux. Et donc tous les économistes aujourd'hui sont rompus à la théorie microéconomique du consommateur et donc mettent en avant, sans manichéisme, mais par conviction personnelle, que le marché est le lieu dominant de la vérité, au fond, et de la vérité, voilà, d'une forme de vérité, et c'est là que sont énoncées toutes les vérités.
C'est-à-dire que quand il faut faire un choix, finalement, on s'appuie sur cette théorie, sur la théorie dominante. Vous avez cité celle d'aujourd'hui, mais c'était une autre il y a 50 ans, pour faire le choix de la façon dont on calcule l'indice.
Absolument. Ce que je montre dans l'ouvrage, c'est que dès les années 60, notamment aux États-Unis, il y a eu des grandes volontés de réformer l'indice des prix à la consommation, avec des petites réformes, mais qui le transforment finalement très, très drastiquement autour de la mesure de la qualité, mais aussi autour du type de moyennes qui sont faites, autour de l'idée que les consommateurs seraient rationnels et que du coup, aujourd'hui, ils substituerait toujours les biens les moins chers à des biens plus chers parce qu'ils seraient hyper rationnels. En fait, on sait que dans la réalité, enfin, toute la sociologie a montré qu'un individu, et même l'économie politique, qu'un individu ne se comporte jamais rationnellement face au marché, que les producteurs dictent beaucoup la loi du marché aussi en matière d'accès aux produits. Et donc, évidemment, aujourd'hui, voilà, ça date des années 60 aux États-Unis et il a fallu attendre les années 2000 et 2010 pour aujourd'hui que cet indice soit devenu, de mon point de vue, un indice qui n'est plus vraiment un indice des prix qui véritablement mesure ce qui se passe, mais qui est plutôt un indice idéal typique de ce qui se passerait si le consommateur se comportait de manière hyper rationnelle sur le marché. Et donc, ça devient presque un indice mythique. Et on peut ne pas être surpris que de moins en moins de consommateurs ne s'y retrouvent dans l'indice des prix tel qu'il est mesuré aujourd'hui, d'où les controverses, notamment au moment du passage à l'euro, où là, il y a une tension très forte entre l'indice officiel d'un côté et puis la perception qu'en avaient les individus, qui a été une tension très forte entre 2002 jusqu'à 2016 quand même. Donc pendant 15 ans, une quinzaine d'années, il y a eu un hiatus très élevé entre la mesure de l'inflation officielle et la perception qu'en avaient les ménages. Et je pense qu'une grande partie est quand même liée à ces réformes successives de l'indice des prix, et au fait aussi, j'ajoute quand même un élément, et au fait aussi que le consommateur moyen, aujourd'hui, ne veut plus rien dire, tant les inégalités se sont accrues, et qu'il faudrait travailler sans doute sur des indices par décile, ou par catégorie socio-professionnelle.
Alors on va revenir sur cette question qui est importante, de savoir si l'indice est représentatif ou pas. Finalement, c'est la question que tout le monde se pose, mais on la pose à la fin pour tenir nos spectateurs. Un dernier élément dans la construction de l'indice quand même, qui est l'influence de l'Union européenne et des règles européennes. Aujourd'hui, l'INSEE fait partie d'un réseau européen qui est chapeauté par Eurostat à Luxembourg. Il y a des règles de mesure d'un indice harmonisé qui lui-même est la référence pour la Banque centrale européenne pour conduire en fait sa politique monétaire. Est-ce que tout ça, justement, est-ce que ça, d'abord, ça a joué un rôle dans la construction de l'indice français? Et ensuite, est-ce que cet indice harmonisé, finalement, c'est, par rapport à ce que vous venez de dire, une forme encore plus extrême d'idéal type de l'indice des prix?
Alors, d'abord, ce que vous êtes en train de dire et qui est très juste montre que l'une des difficultés de l'indice des prix à la consommation est la mesure statistique de l'inflation et qu'elle sert elle sert des usages très très différents. D'un côté, elle sert pour la mesure du pouvoir d'achat. Elle sert comme déflateur, comme je vous l'ai dit, d'un certain nombre de données macroéconomiques, la productivité et la croissance. Et elle sert de cible principale et d'indicateur de performance centrale de la BCE. Et vous voyez, c'est l'un des problèmes, c'est qu'elle sert un spectre bien trop large. Il faudrait sans doute aller, si on était raisonnable, sur des indices beaucoup plus multiples, et il y aurait quand même possibilité de faire œuvre de pédagogie pour bien montrer qu'on peut pas mesurer la même chose pour servir des intérêts aussi différents. Bon, mais cela étant posé, le poids d'Eurostat est arrivé à partir du moment de la construction des critères de Maastricht, de toute évidence, et où petit à petit, il a été demandé non seulement aux économies de se mettre en ordre monétaire, mais aussi d'avoir des indicateurs qui permettraient d'harmoniser un petit peu les politiques et de vérifier, des indicateurs de contrôle en quelque sorte de cette politique économique et de cette harmonisation. Et donc Eurostat est intervenu dans le débat, mais il ne faut pas penser qu'Eurostat, vis-à-vis des offices nationaux de la statistique, opère d'une manière verticale, top-down. En fait, il y a vraiment des négociations extrêmement importantes. Et d'ailleurs, dans les années 90, l'INSEE était quand même considéré comme un institut parmi les plus réputés européens. Et il a plutôt joué comme opérateur un peu de construction du système harmonisé européen, parce que c'était considéré comme l'un des organismes les plus réputés, les plus sérieux, parce qu'il a eu aussi des grands noms comme directeurs généraux, comme Alain Vaux, qui étaient considérés comme des grands noms et légitimes dans la profession. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait un peu différent. Je pense qu'aujourd'hui, les rapports de force et les pouvoirs changent. Je pense qu'aujourd'hui, en particulier sur l'indice des prix, les Pays-Bas jouent un rôle beaucoup plus important, même si j'ai pas tout à fait accès à ces espaces un peu européens qui seraient intéressants de regarder de manière ethnographique pour savoir où sont les rapports de pouvoir. Mais j'ai ce sentiment quand même que les Pays-Bas jouent un rôle beaucoup plus important. Comme
ce qui n'est pas neutre, parce qu'ils ont une conception de l'inflation qui n'est pas la même que
absolument, d'autres pays. Absolument. Puis ils ont une conception très orthodoxe, très dure. Enfin, ils sont sur une ligne très dure. Et ils ont une vision, notamment dans l'accès au big data, beaucoup plus, j'allais dire, bourrin. Enfin, c'est un terme qui est un peu allusif pour vous, mais vraiment où finalement il faut dépasser tous les anciens concepts sur lesquels était construite la statistique publique, notamment en matière d'inflation. Et l'INSEE dit toujours que son indice est encore un indice de l'ASPER, des prix, celui que j'ai un peu expliqué au début de l'entretien. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment un indice de l'ASPER des prix, et que sans doute aux Pays-Bas, c'est plus du tout un indice de l'ASPER des prix, mais qu'ils sont totalement décomplexés sur cette question, et que l'important, c'est essayer de bricoler un indice qui est quand même souvent tiré vers le bas par rapport aux anciennes conventions. C'est-à-dire que la mesure de la statistique, quand elle est tirée vers le bas, elle a des incidences sur le pouvoir d'achat des ménages. Elle a des incidences sur le pouvoir d'achat des pensions alimentaires, elle a des incidences sur le pouvoir d'achat de toutes celles et ceux qui reçoivent des prestations sociales, et elle a des incidences sur les pensions et sur les retraites. Juste tant que les retraites sont indexées. Évidemment, le jour où les retraites sont plus indexées, comme l'avait fait Macron en début de son mandat, évidemment, l'inflation joue moins de rôle dans les négociations. Mais tant qu'elle joue un rôle parce que c'est indexé, alors ça a des incidences extrêmement élevées. Et toute l'histoire de l'indice des prix montre qu'il y a toujours eu des rapports de force, à la fois au niveau macroéconomique pour tirer les dépenses publiques vers le bas aux États-Unis. C'était magistral. Ça a été vraiment magistral au moment de la commission Boschi de 1996. Je pense qu'aujourd'hui, en France, il y a quand même un enjeu autour de cette question, et donc il ne faut pas la laisser entre les mains des techniciens, et il faut que ça redevienne une question d'économie politique, de regarder comment ces boîtes noires, regarder l'intérieur de ces boîtes noires et la construction de ces indices.
Alors précisément, est-ce que, on va poser la vraie question que tout le monde se pose, est-ce que cet indice aujourd'hui, pour vous, il est représentatif du coût de la vie, pour être très clair, ou est-ce que finalement, justement, il est sous-évalué pour tout un tas de raisons que vous avez évoquées, ou pourquoi pas surévalué, on ne sait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, cet indice-là, il est une bonne référence, puisque vous parliez de référence commune d'une certaine façon, est-ce que c'est une bonne référence commune, Il y a un débat qui s'est notamment porté par Emmanuel Todd depuis quelques mois, qui dit en fait l'INSEE manipule cet indice d'une certaine façon pour faire croire qu'il n'y a pas d'inflation, alors que chacun le sait, il y a de l'inflation.
Alors, je vais un petit peu vous décevoir parce que je ne vais pas répondre frontalement à votre question. Je cherche, moi, justement, à essayer de montrer que, comme votre toute première question, les indices sont le fruit d'un travail social intense et le fruit de lutte. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment l'indice, aujourd'hui, est de moins en moins... Enfin, en tout cas, le rapport de force a changé. Le rapport de force est de plus en plus entre les mains de celles et ceux qui veulent tirer les dépenses publiques vers le bas et qui ont sans doute beaucoup moins d'empathie pour les petits salaires et les petits pouvoirs d'achat. Et ce faisant, forcément, ils vont avoir cette tendance à tirer l'indice vers le bas. Et donc, s'il fallait vraiment que je me lâche un peu, je dirais sans doute l'indice, il est peut-être un petit peu sous-estimé. Mais néanmoins, c'est pas vraiment cette question-là qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer que les luttes changent et que aujourd'hui, les syndicats ont complètement lâché prise avec cette question, alors que de mon point de vue, elle demeure extrêmement importante parce qu'elle a des effets redistributifs quand même élevé, et qu'ils ne sont plus dans le débat public parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire, que comme vous le savez, le taux de syndicalisation en France est quand même relativement faible, et que ce faisant, comme le rapport des forces change, celles et ceux qui s'emparent de la question s'en emparent, je pense, souvent de manière outrancière. Hein, c'est le cas du travail d'Emmanuel Todd que vous avez cité. C'est le cas aussi d'un autre ouvrage qui était, de mon point de vue, un véritable pamphlet qu'on pourrait à peine citer, qui est celui de Philippe Erlin, qui est arrivé quelques mois avant celui d'Emmanuel Todd. Mais ils sont quand même très représentatifs d'une forme d'opinion qui dit que finalement toutes ces organisations légitimes que sont les instituts de la statistique ne produiraient que des fake news, parce que c'est un peu ça qu'ils disent. Et pour contrecarrer cette espèce de sentiment de conspiration, j'ai moi la conviction qu'il faut repluraliser les institutions légitimes. Et donc, moi, mon seul appel, c'est pas de dire l'inflation est surestimée ou sous-estimée, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de suspicions autour de l'indice officiel, et que pour renouer avec la confiance envers ces indices officiels, qui sont absolument essentiels, comme je le disais, pour la coordination collégiale, il faudrait qu'on repluralise à l'intérieur de l'INSEE ou dans les débats plus ouverts, les débats qui peuvent y avoir autour du fait que personne n'a la vérité vraie autour de la mesure statistique d'un phénomène
Finalement, ces visions, pour exagérer qu'elles peuvent être en réalité, elles repolitisent d'une certaine façon ce débat autour de l'inflation. Donc, d'une certaine façon, ça permet... le mouvement que
j'appelle
vous
de mes voeux. Ouais. Oui, mais vous avez raison. C'est-à-dire que je regrette que ça soit fait d'une manière aussi lapidaire, aussi. Bon, l'aspect conspirationniste me gêne profondément. Mais j'ai ce sentiment que mais vous avez raison. Dans le même temps, ils reposent les termes d'un débat. D'ailleurs, l'INSEE a réagi à ces deux publications en ouvrant un blog. Donc, vous voyez qu'elle essaye quand même de se remettre à communiquer là où. Précisément, pendant très longtemps, elle avait travaillé plutôt de manière trop discrète. Mais je pense que c'est pas suffisant. Je pense qu'il serait nécessaire d'avoir des lieux de débat beaucoup plus ouverts sur les choix méthodologiques qu'il y a derrière ces indicateurs, sur les implications qu'ils ont, ces choix méthodologiques, sur les présupposés théoriques qu'il y a derrière et sur les représentations du bon, du bien et du désirable qu'il y a derrière tous ces indicateurs macroéconomiques, croissance, productivité, inflation. Et le bon, le bien, le désirable, c'est ma définition de ce qu'est le politique, en quelque sorte.
Alors, on va juste terminer sur une dernière question. Vous avez évoqué effectivement le lien inflation-croissance-productivité. Aujourd'hui, le lien croissance-productivité, c'est une des grandes questions économiques du moment. Hein. C'est effectivement comment expliquer ce ralentissement des gains de productivité dans l'économie capitaliste contemporaine. Et c'est effectivement, ça fait l'objet d'une grande polémique et de grandes controverses un peu partout dans le monde. Une des réponses des défenseurs de la destruction créatrice, notamment Philippe Aguillon et des néo-schumpeteriens, c'est de dire que finalement, il y a un problème statistique aujourd'hui qui fait que on prend pas en compte en fait les gains de productivité issus des innovations et que du coup bah effectivement on n'arrive pas à mesurer cette productivité. Finalement, ça rejoint l'exemple que vous décriviez tout à l'heure à propos des ordinateurs. Hein. Un ordinateur plus puissant, si son prix correspond à l'augmentation de sa puissance, ben finalement, il se voit pas dans l'indice des prix. Donc effectivement, on peut se dire que ces gens-là ont raison. Donc est-ce que finalement la stagnation séculaire, c'est juste un problème de mesure ?
Ce qui est très intéressant quand on regarde la position de ces néo-schumpeteriens que vous citez, c'est que la question de la stagnation séculaire, c'est une question et des ralentissements des gains de productivité, c'est une question qui se pose depuis le milieu des années 70 ou la fin des années 70. Hein. Mmh. Et ils ont été très très peu présents dans le débat public dans les années 80 et 90 autour de ces questions. Donc ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui ils interviennent dans le débat sous l'angle de cette question. Et je pense que là, on pourrait donner la même réponse que vous avez fournie Cédric Durand à un autre moment, c'est que tout simplement, il n'y a plus rien dans leur repère qui fonctionne. Et je pense que d'ailleurs, la crise du Covid, on n'aura pas le temps d'en parler, mais fait perdre aussi toutes les boussoles de ces indicateurs. On n'a pas su très bien, ni même pas bien du tout, mesurer l'évolution de l'inflation pendant la crise du Covid pour des raisons qui tenaient à des questions techniques, mais aussi des questions politiques. Maintenant, moi, ce que je trouve intéressant dans le débat tel qu'il est posé par Aguillon, c'est l'obsession qu'ils ont, c'est ce tropisme qu'ils ont, qu'on retrouve aussi à l'INSEE. Malheureusement, je persiste et signe dans ce que j'ai écrit là-dessus. Ils ont un tropisme technophile totalement dingue. C'est-à-dire une vision de tout changement technique comme étant quelque chose... D'ailleurs, il ne parle pas de changement technique, il parle de progrès technique ou d'innovation. C'est-à-dire qu'il y aurait toujours une charge normative positive dans toutes ces transformations. Or, à partir du moment où on s'intéresse aux effets qualité, précisément, et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à cette question, bien sûr, d'un certain point de vue, il y a plus de fonctionnalités dans les ordinateurs, mais quelles sont les grandes conséquences d'une multiplication des ordinateurs à un niveau mondial, et d'ailleurs de la croissance aussi, c'est quand même des dégâts écologiques majeurs qui, eux, s'aggravent. À partir du moment où vous voulez tenir compte de la question de la qualité, où s'arrête le point de vue normatif sur ce qu'il faut prendre en compte est une question abyssale. Et d'ailleurs, je reprends l'exemple de Boskin, hein, parce qu'il n'est pas dans mon camp, donc forcément, je trouve que c'est intéressant de s'arrimer à lui aussi pour cette raison-là. Boskin disait, il faut tenir compte des évolutions de l'écologie pour tenir compte de la qualité, de l'évolution de la qualité des biens. Quand on a de la pollution de l'air qui s'accroît, quand on a une dégradation drastique de la biodiversité, quand on a un changement climatique auquel on ne saura bientôt plus faire face, bah, tous ces éléments sont des éléments qui ont dégradé la qualité, non pas directement de ce qu'on consomme, mais quand même de l'environnement autour de ce que l'on consomme. Eh bien, j'ai ce sentiment que les économistes aujourd'hui cherchent à nous orienter de ce point de vue, et ce tropisme hyper technophile des uns pourrait être totalement compensé par une inquiétude, à mon avis beaucoup plus légitime, autour de l'évolution de la société et de son environnement social et écologique de l'autre. Et donc mon point de vue serait bien plus mitigé que celui de Aguillon là-dessus.
Très bien, mais merci beaucoup d'être venu pour nous parler des prix et de bien plus d'ailleurs.
À
très bientôt, et nous nous retrouvons bientôt aussi pour une autre émission de l'Écho à contre-courant.